6. L'aventure des processionnaires. Les morts sont des sans-maison, alors même qu'ils visitent à fréquentes reprises leur ancienne maison et celle des autres. Cette quasi-absence de l'hostal fortifie du reste parmi les décédés la conscience d'une communauté paroissiale plus vaste. Elle déborde le cadre étroit de la domus. Elle les attache préférentiellement à l'église dont dépendait leur résidence. Les morts sont meilleurs paroissiens que les vivants. Emmanuel Leroy Ladurie. Vainqueur au combat du Déroy où avaient brillé ses exploits, le bel églantier repartit sans attendre d'être guéri. La chevauchée lui était dure, car il souffrait force blessures et cruels coups vite pansés. Il eût fallu se reposer, mais le chevalier n'en fit rien. En remettant au lendemain la poursuite du bel enfant, il craignait de perdre du temps et de faire à nouveau chou blanc. Tout meurtri, il pressait les flancs de son robuste destrier dans le dessein de rattraper l'insaisissable Changelin avant qu'il ne s'enfuit trop loin. À cause de ces calomnies, après tant d'autres vilainies, le chevalier avait été assailli par des preux dupés. Mais après l'avoir emporté, non sans mal, le bel églantier savait le vaurien à portée. Malgré sa mise ensanglantée, il ne relâchait point sa chasse. Il remontait toujours la trace du joli petit imposteur aux malices d'enfant charmeur. Pour échapper à la capture, la pernicieuse créature s'était fondue dans les ruelles et les plus obscures venelles qu'en serraient les hautes courtines de la riche ville voisine. Ainsi donc, le bel églantier arriva-t-il dans la cité que l'on appelle Carouel, dans le duché de Bromel. Les gardes postés sur le pont écarquillèrent des yeux ronds sur le grand harnois cabossé de ce chevaucheur éreinté. Nul sergent n'avait remarqué l'entrée d'un enfant bien tourné.
« Nous n'y faisons plus attention, » dit l'un des hommes de faction, « car au temple de la déesse enseignent maîtres et professes tant et si bien que le quartier est fort animé d'écoliers. »
Le bel églantier décida qu'il fallait gagner cet endroit. Jeux et chahuts estudiantins cacheraient bien un Changelin. Comme il quittait les gens du guet, ceux-ci dirent d'un air inquiet « Trouvez un gîte avant la nuit. » On craint les ombres par ici. Quand arrive la fin du jour, chacun s'enferme à double tour. Vous n'aurez guère envie de voir ce qui rôde tard dans le noir. » Le chevalier passa les portes et entra dans la place forte. Elle lui parut moins vivante et ses ruelles moins bruyantes que ce qu'on aurait pu penser. Des bourgeois taiseux et pressés vaquaient à leurs mornes affaires. Les voisins ne bavardaient guère. Les gens filaient sur la chaussée. Les criers étaient étouffés. Nul ne marchandait à plaisir, ni ne flânait pour son loisir. Carouel avait de l'humeur à recevoir un visiteur. Le bel églantier aperçut, sommant de haut les toits pointus, le dôme d'un grand sanctuaire de la déesse des mystères. Il se hâta vers l'édifice, pour requérir les bons offices des clercs de la divinité. Autour de lui, tout le quartier était sillonné de cortèges d'écoliers sortis des collèges. On y croisait des carabins, de vieux goliards crèvent la faim, des novices un brin décavé, des petits grimauds tonsurés, quelques faiseurs de galipettes, force moignillons en goguettes, des cancres déjà barbichus et de très sages ingénus. Où donc trouver un Changelin dans ce concours de galopins? Le bel églantier eut l'idée de faire une enquête éclairée par les lumières ecclésiastiques des supérieurs académiques. Ayant sollicité audience, il fut introduit en présence de la sévère mystagogue qui dirigeait les pédagogues. Pourriez-vous, révérende mère, dire si quelque magistère a été récemment troublé par un désordre inopiné? En entendant le chevalier, la régente lui rit au nez. À vrai dire, noble seigneur, j'aurais un étrange bonheur à ne compter qu'un ou deux cours perturbés par de vilains tours. Il ne passe point de journée sans chahut, esclandre et huée, plaisanterie et turbulence, momerie et impertinence. Mais dans cette dissipation, est-ce qu'une mauvaise action sortirait nettement du lot? Je cherche un horrible marmot qui, sous une mine angélique, trame des farces maléfiques. L'écolâtre, à cette question, parut prise d'inspiration. On vient juste de m'annoncer un accident fort singulier. Pendant qu'il ouvrait sa leçon, notre lecteur de droit canon s'est effondré avec sa chair dans un vacarme de tonnerre. Le maître s'est cassé le bras alors qu'on riait aux éclats. À ce qu'on m'en a rapporté, il semblerait qu'on ait scié tous les tenons de la tribune. C'est une farce peu commune, même parmi nos chenapans. Peut-être qu'un esprit méchant leur en aura soufflé l'idée pour exciter cette risée. Et où pourrais-je rencontrer ces jeunes clercs si dissipés? Au soir, ils fuient les bancs d'école et se livrent à des fêtes folles dans les tavernes et baigneries, les gargotes et rôtisseries. Les plus polissons vont en foule au tripot de la belle poule. Voyant que le bel églantier voulait rapidement gagner le bouge des jeunes fêtards, je crains qu'il ne soit un peu tard, déconseilla la mystagogue. La nuit coupera tout dialogue. Nos estaminets ferment tôt, chacun rentre chez soi au trot. Caroël n'est point noctambule. Nous enfermons nos somnambules. Regagnez donc votre logis. Vous êtes durement meurtri, vous feriez mieux de vous soigner en veillant à vous reposer. Le bel églantier n'en fit rien, poursuivant toujours le dessein de mettre la main au collet du malévole farfadet. La journée tirait vers le soir, quand, nourrissant ce vain espoir, il descendit force traboule en quête de la belle poule. Les rues alentour se vidaient, les petits métiers s'éclipsaient, toutes les boutiques fermaient. Le bon peuple se dépêchait sur le chemin de la maison. Des groupes de jeunes garçons croisèrent le bel églantier et se hâtèrent sans daigner répondre à ses quelques questions. Les problèmes d'orientation que rencontra le chevalier manquèrent bien de l'égarer. Le crépuscule s'étirait quand il trouva le cabaret. Derrière une porte branlante brûlaient des chandelles fumantes dans un sous-sol malodorant. Ne restaient que quelques clients que le patron mettait dehors en les vouant au mauvais sort. Il y conduit le chevalier comme un vulgaire poivrier. « Du balai » criait-il, « on ferme ! Le jour va toucher à son terme !» Le bel églantier eut le temps d'apercevoir en un instant des tables de briques et de brocs, une aire de combat de coq, quelques cages à galinacées et de vieux tonneaux alignés. Puis le rustre, sans l'écouter, lui referma la porte au nez. Les derniers buveurs s'égaillaient et le chevalier s'étonnait. Voici une étrange contrée, où dès avant la nuit tombée, les mauvais lieux et les tripots tirent prestement le rideau. Autour de lui, tout le quartier venait de se claquemurer. Les huies étaient cadenassées, loquets tirés, volets barrés. Ne restait plus âme qui vive. Une prostration maladive engourdissait les carrefours d'une nuit noire comme un four. Le bel églantier esselé se sentit quelque peu troublé. Les douleurs et l'épuisement l'éprouvèrent plus durement. Il aurait fallu rechercher un gîte où pouvoir s'aliter au lieu de parcourir la ville derrière une proie puérile. Il allait être compliqué de parvenir à se loger puisque cette vépré morose tenait toutes les entrées closes. Le chevalier, à ce moment, entrevit un vif mouvement à l'extrémité de la rue. Une silhouette fort menue, sitôt parue, avait filé, comme pour fuir le preux blessé. C'était une bizarre alerte dans cette bourgade déserte. Qui donc aurait pu redouter à ce point le bel églantier? Nul, sinon un autre étranger qui, comme lui, s'était trouvé surpris par l'extinction des feux. Enfin un coup du sort heureux! Ce couche-dehors évasif n'était-il point son fugitif? Secouant son éreintement, le sire prit le mort aux dents et se jeta à la poursuite du petit freluquet en fuite. Le galopin, qui était preste, filait sans demander son reste. Il courait tel un feu follet dans les passages et les goulets, et se fondait souvent dans l'ombre des coupes-gorges les plus sombres. Le chevalier, bien éclopé, craignait hélas d'être semé. Il se sentait tout essoufflé et se remettait à saigner. Il était parfois distancé et manquait d'être fort longé, quand un ricanement moqueur lui redonnait un peu d'ardeur. Pris dans ce jeu du loup nuiteux à pourchasser le joli gueux, le chevalier était distrait du cadre obscur qui l'entourait. Or, les quartiers s'enténébraient et les rues noires s'animaient. Des souffles froids montaient des puits, recrachant de vagues esprits. Des remugles sourdaient des caves en forme de fantômes hâves. De pâles vestiges spectraux se hissaient hors des soupiraux. Ce grouillement d'êtres horribles se coulait encore intangible à l'ombre des porches et redans et sous les encorbellements. Toute cette nocturne errance affluait dans un grand silence vers quelque rendez-vous secret. Le chevalier ne se doutait pas encore de leur présence, mais il endurait des souffrances cruelles comme le tombeau. Recru de fatigue et de maux, il commença à trébucher et fut lâché par son gibier. Le bel églantier s'arrêta en maudissant le galapia. Appuyé contre une façade, il maudit aussi l'escapade. Il abdiquait de guerre lasse, quand monta de la ville basse une fort étrange musique, solennelle et mélancolique. C'étaient des hymnes religieux, entonnés par un cœur nombreux, qui gémissait dans les ténèbres, un requiem sourd et funèbre. Le bel églantier frissonna à ce choral pour l'au-delà. Mais il se dit également qu'au milieu de ces pieuses gens, quelques croyants hospitaliers accepteraient de l'héberger. D'une démarche chancelante, il suivit l'estance glaçante. Arrivé à un croisement, il vit un grand rassemblement qui processionnait avec peine en chantant de tristes antiennes. À la lueur de froids flambeaux se pressaient de sombres dévots dont le défilé hiératique s'ornait de fastes liturgiques. Le bel églantier s'aperçut que de silencieux inconnus accompagnant son mouvement le poussaient insidieusement dans le cortège des fidèles. Cette impulsion impersonnelle le mena dans la procession. Sitôt, une atroce impression lui glaça la moelle et le cœur. Il était cerné par l'horreur, car cette foule de marcheurs exhalait d'affreuses odeurs. Rien de vivant dans ces figures. Rôdaient par milliers les lémures. Ils se traînaient languissamment en parodie d'enterrement. Il y avait là de grands vieillards et des bourgeois au teint blafard, des parturientes malheureuses et de misérables lépreuses, des prélats blancs comme des cierges et les béguins de chaste vierge, des jouisseurs aux panses gonflées et des mendiantes décharnées. Toute leur face était livide. Tous leurs regards paraissaient vides. Ils chantaient de leur voix fatale une antiphonie sépulcrale, promenant leurs restes errants dans des craquements d'ossements. Entraîné dans l'immense houle de ce grand mouvement de goule, le bel églantier fut contraint de marcher parmi les défunts. Il remontait les rues en côte en direction de la ville haute en ululant les élégies de l'horrible cérémonie. La moribonde procession finit par faire une station devant le portique fermé du grand hospice consacré au culte de la Dame Douce. Le chevalier, malgré sa frousse, se demandait ce que les morts venaient faire dans ses abords. Pour les malheureux qui trépassent, ce n'est point la bonne paroisse. Ces mots lâchés par devers lui accrurent encore ses soucis, car ce concis marmonnement se désaccordait du plein chant. Aussitôt, le bel églantier fut scruté par les déterrés avec une grande défiance et des rictus de malveillance. Par ironie, le chevalier était si gravement blessé qu'il parut de spectrale allure à la cohorte des lémures. Le prenant pour l'un de leurs hères, les fantômes s'en détournèrent. Pendant ce temps, loin à l'avant se détachaient du premier rang et de son faste plein d'emblèmes des officiants à face blême. Ils frappèrent de poings osseux les grandes portes du Saint-Lieu. « Ouvrez !» crièrent-ils. « Ouvrez ! Laissez passer les trépassés !» Mais leurs plaintes étaient sans écho et les battants demeuraient clos. Alors la terne procession reprit sa déambulation, entraînant dans son défilé le chevalier épouvanté. La multitude fantomale cheminait vers la tour réale où les feux du resplendissant brûlaient dans le noir firmament. Le bel églantier commençait à deviner le triste objet de l'horrible célébration. Il en eut la confirmation lorsque les morts furent devant le temple du resplendissant. « Ouvrez !» crièrent-ils. « Ouvrez ! Laissez passer les trépassés !» Mais les portes du sanctuaire restèrent sourdes à la prière. Tous les défunts de Carwell cherchaient le repos éternel. Là, le culte du desséché, étant anathématisé à travers toute la contrée depuis de bien longues années, ils n'avaient point le sacrement pour mettre fin à leurs tourments. Ils erraient donc de temple en temple, en cortège toujours plus ample, dans l'espoir de trouver enfin quelque accès au secours divin. Or, le chevalier redoutait que les âmes privées de paix ne l'entraînent dans leur calvaire jusqu'à son heure dernière. Se soustraire aux tribulations de la macabre procession lui paraissait de prime abord affaire de vie ou de mort. Mais lorsque le bel églantier faisait mine de s'éclipser, il se heurtait aux rangs serrés des carcasses des déterrés et était toujours refoulé au milieu des corps faisandés. Il se sentait trop mal en point pour affronter l'épée au poing la trébuchante procession de pieuses abominations. Le corps tout rompu de douleur, l'esprit tout confus de frayeur, il ne trouvait aucune ruse pour fuir ces figures camuses. Rampait la foule mortifère près du plus vaste sanctuaire, quand le chevalier, épuisé, s'abandonna à patauger dans les eaux grasses du ruisseau. Les chants s'étiolèrent bientôt, les morts suspendirent le pas, tandis qu'un effroyable éclat allumait leurs prunelles éteintes. L'ensemble des têtes défuntes se tournait non sans craqueter du côté du bel églantier. Le malheureux comprit trop tard qu'il venait de faire un écart, car les spectres, redoutant l'eau, marchaient en bordure du flot. En aspergeant ses solerets, le chevalier se trahissait. Comme un terrible grognement montait des gosiers morts vivants, le bel églantier, courbattu, secoua ses membres fourbus et brûlant ses dernières forces, il bouscula les striges torses pour fuir la funeste assemblée. Sa débâcle fut saluée par une effroyable huée, une frénésie courroucée en choléra les revenants. Claquant des os, grinçant des dents, ils se ruèrent sur ses traces dans une terrifiante chasse à travers les rues brouillardeuses de la bourgade ténébreuse. Talonné de près par la meute de cette mortuaire émeute, le chevalier fuit, éperdu, le long des passages pentus. Proche de l'étourdissement, il avait perdu trop de sang. Quand un coup de chance hasardeux ramena son sauve-qui-peut devant le louche cabaret des polissons et trousse-paix. Il enfonça d'un bon taquet lui branlant de l'estaminet et força donc la belle poule suivie par la horde des goules. Papillotait encore dans l'âtre quelques braises et tisons rougeâtres. Le chevalier, en un seul bond, empoigna le plus grand brandon et l'agita pour menacer d'embraser les corps desséchés. Les escarbilles voltigèrent en incandescente lumière. Ces lueurs eurent pour effet d'allumer mille et un reflets sur le poli des plats d'étain. Or, ce scintillement soudain, accompagné de grands fracas, éveilla les coqs de combat enfermés dans des trois cageots. Aussitôt, des cocoricos saluèrent l'aube factice avec une ardeur rédemptrice. Cette cacophonie trompeuse effraya la gente ténébreuse. Craignant d'être exposés au jour, les spectres firent demi-tour et dans une fuite affolée regagnèrent leurs hypogées. Ils n'avaient pas franchi le seuil que le héros tournait de l'œil. Il était proche de la fin. On le retrouva au matin. Il fut soulagé de ses biens par de charitables coquins. Mais des âmes plus scrupuleuses l'amenèrent aux guérisseuses de l'hospice de Dame Douce. Elles tirèrent de leurs trousses lancettes, aiguilles et pansements, baume, cataplasme et onguent, et soignèrent le chevalier si bien qu'il fut remis sur pied. Pour marquer sa reconnaissance, au cours de sa convalescence, le bel églantier leur apprit ce qu'il avait vu dans la nuit et la leçon à en tirer. Puisque les cadavres animés erraient de moutier en moutier sans parvenir à y entrer, suffisait d'en ôter les huies pour les remonter au pertuis de la courtine de la ville. Au prix de ce moyen habile, le bon peuple agirait en sorte de mettre les morts à la porte.